Georges Baume, Banastou. Chapitre 1. Banastou était un des plus grands savants de Toulouse en Languedoc. Maçon de son état, il employait le meilleur de son temps à étudier l'histoire naturelle dans de vieux almanachs. Seulement, il avait eu, autrefois, l'imprudence d'épouser une femme qui le contrariait dans ses études. Aujourd'hui, que leur fille Claire avait 20 ans, les deux époux ne cessaient de se quereller. Trésine aurait souhaité que la demoiselle pût aider, en étant couturière, la maison avec ses gages. « En plâtre de Banastou » criait-elle, « quel homme viendra prendre une demoiselle qui ne sait qu'empailler des bêtes ?» Claire gagnera beaucoup d'argent quand elle aura son magasin près de la faculté de médecine. « Allons, tu ne comprends rien, il vaut mieux que je m'en aille. » Trésine ne sortait pas de sa maison 10 fois l'an. Épaisse et courte, enveloppée de mouchoirs, de châles et de foulards, elle sommeillait tout le jour sur un canapé de paille dans la cuisine. Dans le quartier, malgré les excentricités de Trésine, on ne se moquait pas de sa fille Claire, par galanterie envers une créature si avenante et si honnête. Que son pied était leste dans les galoches, sa jambe fine sous la jupe écarlate, et les mains et les bras, quand elle retroussait ses manches, quel éclat de blancheur ils avaient. Banastou, plus il vieillissait, plus il empaillait. On eût dit un aïeul déjà à voir sa tête fluette, sa bouche ruminante, ses yeux candides, pareils à des gouttes d'eau, prêtes à tomber d'une branche après la pluie. Il ne pesait sûrement pas, même tout habillé, 50 kilos. Son costume l'aurait plutôt rajeuni. Été comme hiver, des espadrilles, pantalons et veste de velours, et sur les cheveux blancs, un chapeau tyrolien aux ailes rabattues, très gai avec ses déchirures, ses nuances d'arc-en-ciel, son air de provoquer le monde. Banastou ne riait guère. Homme heureux, il ne pensait pas à l'argent. Néanmoins, ce jour de Noël, il dut se préoccuper des choses de la terre. On n'avait rien à manger dans la maison. « Eh bé ! » s'écria-t-il, « rien au feu, à midi ?» Trésine se releva lentement parmi ses coussins. Claire frémissait de toute son âme à l'émotion de tant de misère ce jour de grande fête. Le boulanger dit qu'il ne se paie point des paroles d'un savant, insinua Trésine. Un savant? Et tu ne seras jamais savante, toi. Tu n'as pas d'imagination. Espèce de fainéante. Madame la princesse. Claire sanglota. Comment, à son âge, sortirait-elle de cet enfer? Son père ne comprenait pas qu'un pauvre n'a pas le droit de passer son temps à rêver. Sa mère ignorait la loi du travail, la nécessité de l'effort. Était-ce leur faute si la nature les avait ainsi créés, insouciants, infirmes d'esprit? Tout à coup, elle sentit au fond de son cœur la joie de se dévouer, la force d'affronter les sarcasmes du faubourg ce matin de Noël. « Je vais chercher de quoi manger, » dit-elle. Elle rentra bientôt, le panier garni de vivres. Elle alluma le feu. Après avoir rangé les côtelettes de mouton sur le grill, elle dit « Oui, j'apporte le dîner. Savez-vous comment ? Raconte, raconte. C'est le boucher qui m'a parlé d'un mariage. Alors, tout en causant, il m'a fait crédit. » Claire riait, ses parents aussi, oubliés déjà de leur détresse. Trésine encourageait sa fille au travail du ménage. « Allons, coupe le pain. Il reste, je crois, une bouteille de vin à la cave. Nous n'avons pas de gâteau. » Banastou s'esclaffa. Puis, se grattant le front d'un air grave, il demanda « Et l'histoire de ce mariage ?»« À table, nous raconterons ça. » Ils s'installèrent. Banastou, guilleré avec ses jambes de grillon, sa petite figure de pomme rainette, Trésine, balourde, en ses foulards et ses châles. Banastou but un verre d'eau pour s'ouvrir les conduits et, désireux de pardonner à sa femme, il lui versa un verre d'eau pareil. « Donc, voici, » commença Claire, « le fils Tabarié me veut. »« Tabarié ? » s'exclama Banastou. « Le fils du garçon qui sert chez le pharmacien Froment ? Le fils du chimiste qui, sachant à peine lire, a appris tout seul à donner les remèdes aux malades ? Il n'ose pas venir vous trouver. » « Je le connais, il est de la taille de mon père, un peu gros, toujours propre, la figure ronde. Comme je sais où le rencontrer, je vais m'habiller de dimanche. » Une fois parée, elle s'enfuit derrière le faubourg, à la gare de Matabio. Là, les jeunes gens qui n'ont pas de promise se reposent, avant les vêpres, sous les platanes. Tabarier se trouvait seul, dans une telle songerie qu'elle fut toute surprise. Il allait fuir, timide, lorsqu'elle s'avança d'un pas plus courageux. « Eh bien, monsieur Tabarier, je vous cherchais, pour ainsi dire. Il faut que je vous dise que mes parents voudraient vous voir. » Il la regarda, stupéfait, et, de la voir si franche, en l'éclat de son visage rose et de ses yeux noirs, il se mit à sourire. « Puisque vous m'attendez, je vais venir, » répondit-il. Tabarier se levait du banc de bois lorsque Claire, soudain, s'en retourna, exagérant pour lui plaire la fierté souple de sa démarche. Il riait tout seul. Les cloches de toutes les églises chantaient, sur les toits de Toulouse, leur musique éternelle. À son tour, il s'en alla. Bientôt, dans la ruelle fraîche du faubourg, il poussait la porte des Banastou. Chapitre 2. Banastou, en bras de chemise, descendit précipitamment de son musée. Flatté que le jeune homme à sa vue ôta son chapeau, il fit des politesses sur les dernières marches de l'escalier. « C'est donc vous qui désirez ma fille ?»« Très bien, très bien. Causons un peu. Prenez cette chaise. Claire y était assise tout à l'heure. » Banastou, en négociateur pressé, se disposait à traiter du mariage comme d'une maison à reblanchir, d'un épervier à nettoyer. « Vous savez, je connais beaucoup votre père. C'est un artiste, lui aussi, dans son genre. » Tabarier rougit, s'embarrassa, penaud de constater que Banastou était vraiment l'original que les faubourgs proclamaient. Mais sa tendresse pour Claire lui inspira de la pitié. « Je suis employé, dit-il, j'ai un marchand de vin. Je gagne ma vie. » « Tant mieux, tant mieux. Seulement, je souhaite un gendre qui puisse me comprendre. Je vous enseignerai mon art, je vous donnerai pour l'avenir de sérieuses ressources. Plus tard, vous vous établirez naturaliste dans un magasin. » « Je n'avais pas prévu de telles conditions, sapristi. »« Qu'importe. »« C'est que mon père vit seul. Il entretient son ménage avec soin, vous comprenez? Alors moi, je gagne ma vie. » Claire descendait, plus jolie que tout à l'heure, sous les platanes dépouillées par la froidure. Ayant quitté là-haut son corsage garni de jais, elle avait retroussé ses manches, noué son tablier de percale et, sur les marches de bois, se détachait ses pieds fins que les galoches ne flattaient guère. Les deux hommes la contemplaient et aussi la mère qui, attentif aux événements solennels de cette heure, ouvrait ses paupières larges. « Arrive ici, lui dit Banastou, sois heureuse, nous consentons à ton mariage. » Puis, se tournant vers Tabarier, qui de plus en plus était ébahi, il ajouta « Venez voir mon musée !» Banastou grimpa si vite que les deux fiancés se trouvèrent seuls dans une encoignure de l'escalier. Là, Claire se pencha vers le jeune homme et lui dit « Promettez à mon père tout ce qu'il voudra. Nous mènerons la maison à notre guise lorsque nous serons mariés. » Tabarier, en familiarité déjà parmi ses simples, eut la force de rire dans cette maison où tout semblait tenir du miracle. Du premier, on escaladait au second par une échelle. Le palier était vaste. Banastou, à droite, ouvrit son musée, une grande pièce inondée de la lueur du ciel. Des tables partout, des vitrines et des fûts de colonnes chargées de cailloux et de coquillages, peuplées d'oiseaux de couleurs diverses qui se raidissaient sur leurs perchoirs. « Que dis-tu de mon musée, mon gendre? Va, n'aie pas peur, je t'enseignerai à empailler. On apprend vite, quand on est intelligent, à la condition absolue d'aimer la science. » Tabarier voulut être courtisan. « Vous avez là des choses de prix, observa-t-il. Des hirondelles, un grand-duc, des fossiles. Je m'étonne que vous n'en vendiez pas quelques-unes. » « Tu plaisantes. Tu ne sais donc pas que pour admirer mes étalages, le meilleur monde de Toulouse vient jusqu'ici, le baron de Pampan, le marquis de la Carabène et, l'autre jour, le proviseur du lycée qui voulait mesurer ma tête de mort. » Tandis que Banastou déblatérait, les deux fiancés s'assirent sur un banc et Tabarier interrogea Claire. « Pourquoi avez-vous contribué à de telles folies ?»« Pour que mon père ne devienne pas fou tout à fait. » Ici, je lui raconte des histoires, je le fais rire et la gaieté entretient un peu la santé de son âme. En descendant, ils jouèrent à se taquiner tous les trois sur les gradins de l'échelle. Au premier, dans la chambre où il couchait, en compagnie de son épouse, Banastou montra avec orgueil les collections de chapeaux, de casquettes, de cannes et de pipes qu'il avait étiquetées de surnoms et de dates. Tabarier s'empressa de prendre congé. Trésine, pour lui serrer la main, sortit de ses châles. Banastou lui fit des compliments sur son intelligence. Claire l'accompagna jusqu'au seuil. « Venez quand vous voudrez, lui dit-elle. Il faut d'abord que mon père demande officiellement votre main. Adieu. » Il s'éloigna. Maintenant, les maisons du faubourg l'étonnaient par leur mélancolie. Ne vivait-on pas chez les Banastou dans l'ignorance des vanités humaines? Il se sentait heureux, imprégné de la candeur de ces trois créatures qui ne pensaient pas plus au lendemain que les bêtes que Dieu a mises dans les bois. Chapitre 3. Le père Tabarier, dans sa pharmacie, lisait le journal derrière les grands bocaux tricolores posés le long des glaces. À la vue de son fils, il se dressa, ses gros yeux écarquillés sous le béret, ses mains jointes sur la courte blouse noire dont les plis cachaient à peine le pantalon de velours. « Tu as l'air d'un banquier qui a fait de mauvaises affaires, » dit-il de sa voix retentissante. « C'est que je viens te parler de mon mariage. » « Voilà que ça te reprend. Est-ce toujours avec la fille de Banastou? Toi aussi, tu veux empailler des hirondelles et des canaries? Claire n'attend que son mariage pour travailler sérieusement. On va se moquer de nous. Voyons, réfléchis bien avant d'entrer dans un logis sans cervelle. Claire m'a promis de n'obéir qu'à moi. Aïe, les promesses d'une femme. Enfin, je t'avertis que si plus tard tu es malheureux, tu te démêleras. » Le père Tabarier, qu'on appelait Bataclan à cause de son emploi de caporal tambour au régiment, occupait, quelques jours après, la meilleure place de la table chez les Banastou. Auprès de lui, Trésine laissait se répandre sur le dossier de la chaise le châle d'indienne de ses noces. Les deux fiancés mangeaient de bon appétit. Banastou, soucieux de séduire, servait le pain, le vin, les victuailles. Mais en découpant la poularde, il voulut prouver sa prestesse de naturaliste à disséquer les volailles. Et cela lui fournit l'occasion de parler de son musée. « Quand viendras-tu, Bataclan, visiter mes trésors ?»«
Jamais. »«
Ah bah, tu ne me ménages guère. »« Tu perds le temps en faribole. Je veux mettre de l'ordre dans ta vie. »«
Bravo !» approuva Trésine. « Voilà des paroles qui sonnent comme de l'or. »
Les fiancés se poussèrent du coude en souriant. Banastou baissait la tête. Plus tard, après le mariage, il convaincrait Bataclan des ressources pratiques de son art et par Tabarier même. On mangea dur, on acheva les bouteilles, afin d'oublier la discussion. Bientôt, reluisants et rouges, ils eurent beaucoup de peine à se lever tous ensemble. Le mariage eut lieu le mardi gras, dans la joie du faubourg. Dès le lendemain, il n'y eut plus de fête. Tandis que Tabarier se rendait au magasin de vin, Claire noua autour de sa taille le tablier de ménage et si bravement que Banastou n'osa, dans le musée, solliciter son aide. Banastou s'enragea d'être seul. Par dépit, il négligea davantage son métier de maçon, en se fiant d'ailleurs aux gages de son gendre. Celui-ci, au bout de quelques semaines, se fâcha. Il s'en fut prier son père de préparer un remède capable de guérir le naturaliste. « Compte sur moi, lui répondit le pharmacien. D'abord, que ton épouse m'apporte une clé de votre maison. » Chapitre 4. Le soir même, quand le faubourg se fut endormi, Bataclan, après s'être assuré que la lampe du naturaliste brillait au-dessus des toits, s'insinua dans la maison, atteignit le second étage à travers l'obscurité. Une flèche de lumière jaillissait de la porte du musée par le trou de la serrure. Là, le pharmacien observa quelques minutes. Banastou travaillait avec ardeur, les bras nus. La joie d'être seul, dans le silence, au milieu des êtres qu'il douait d'une seconde vie, lui donnait un tel feu aux mains et au visage qu'il avait dû, pour mieux respirer, ouvrir sa fenêtre au souffle des campagnes. D'un geste grave, il bourrait d'étoupe une chouette. En ce moment, il n'offrait rien de ridicule. On eût dit un moine dans sa cellule, accomplissant quelque œuvre de piété.
Bataclan s'émut du bonheur de cet homme, de sa foi dans un art qu'il cultivait par vocation. Il hésita à le déranger. Banastou ne se suffisait-il pas à lui-même, sans rien demander aux autres? Sa vie était un modèle de modestie, borné à son foyer, loin des choses de la terre. Mais, justement, ne vivait-il pas trop loin de la terre? Malgré sa probité, il n'avait pas le sens commun. Si on le laissait persévérer dans ses manies, la misère aux profondes racines détruirait la maison. Et Bataclan se sentit menacé de recevoir sur le dos la charge d'une famille compliquée de petits-enfants. Ma foi, Bataclan n'hésita plus. À travers l'ombre des murs poisseux, il se glissa, tout contre le musée, dans la chambrette où le naturaliste remisait des pieux et des châssis. Il s'y enferma et, l'oreille attentive, perçut le grincement terrible d'une scie. Alors, impitoyable, il saisit un balai, frappa, cogna partout, à tort et à travers. Et, de nouveau, il tendit l'oreille. Le grincement de la scie s'était interrompu. Banastou, en examinant ses murailles, marchait de long en large, à pas précipités. « Est-ce qu'un esprit des temps anciens se réveillerait, par hasard ? » grondait-il. Cependant, Banastou voulut faire le brave. Il ricanait déjà, lorsque les coups de bélier recommencèrent, furieux. Ce vacarme de tempête lui parut venir de la maison voisine, dont la toiture était remplie de bosses et de crevasses. « Ou bien, c'est chez moi, au cabinet noir peut-être. » Par exemple, il se disposait à sortir, sa lampe à la main, tremblant de peur. Il s'arrêta, car les coups de bélier ébranlaient sa porte même. Puis il entendit dégringoler à travers la maison une sorte de monstre qui secouait l'échelle. Le vent hurlait dans les jardins du voisinage. « Que le diable m'emporte ! J'ai affaire à quelques loups-garous !» Cette nuit, le naturaliste ne dormit point. Le matin, au lieu de remonter dans son musée, il s'éloigna dans la campagne, erra jusqu'au soir. Durant plusieurs jours, il courut de château en château, sans rapporter le moindre ouvrage. Trésine lui parlait du grand-duc et des hirondelles, il répondait à peine. Les jeunes époux, afin de prouver leur contentement, payèrent un poulet le dimanche. Une fois, Banastou eut le courage de remonter là-haut, d'épier son musée par le trou de la serrure. Les oiseaux, sur leur perchoir, y semblaient heureux de vivre en paix, seuls. Afin d'occuper ses loisirs, Banastou reprit la truelle. Enfin, le lundi de Pâques, il interpella sa fille d'un cri joyeux. « Accompagne-moi au musée. Qu'as-tu ? Viens, une idée, nous allons délivrer tout notre monde. » Ils éparpillèrent les oiseaux, les coquillages, dans la maison, à droite et à gauche, sur les meubles, sur chaque marche d'escalier, contre le mur. Seulement, ce monde mort était en si grand nombre. Banastou consacra la semaine à disperser son musée par les faubourgs, chez les riches. On le voyait passer, une bête sur l'épaule, au milieu des rues, à travers les places. « Où tu vas, Banastou ? Écarte-toi, tu me ferais tomber !» « Tes bêtes sont jolies, si tu m'en donnais une, tu ne la comprendrais pas. Et toi, pourquoi tu t'en débarrasses ? Je répands mes œuvres immortelles afin que, dans Toulouse, on se souvienne de moi quand je serai mort aussi. » Il fit des envieux. Chez les riches, on l'invitait à boire des coups de vin vieux, à manger des restes de gibier. Il blanchit tous les palais de la ville, les vestibules des avocats et des notaires, le cabinet du proviseur du lycée. Même Banastou engraissa un peu. De temps à autre, il empaillait une bête dans un château. Cette joie, étant plus rare, lui paraissait meilleure. Jamais, tant qu'il vécut, on n'utilisa la salle de son musée. Il ne s'y montrait pourtant qu'à de longs intervalles, furtivement. Car le soir, quelquefois, il tremblait encore. Il revoyait passer dans la maison ce géant d'ombre qui avait fait rouler tous les meubles. Tout de même, il se donnait un air de grandeur et de sacrifice, disant « Moi, qui étais né naturaliste, me voici plâtrier et maçon pour plaire à mes enfants. Les bêtes sont aimées par les hommes qui n'ont pas d'argent. Mais nous, les pauvres, par qui sommes-nous aimés au-dessus de nous ?»